Donc, imaginez que vous soyez face au choix. On vous dit, soit vous perdez la vue, soit vous perdez l'ouïe. À ce moment-là, je pense que la décision serait extrêmement difficile à prendre et que tout le monde ne prendra pas la même décision. Par contre, si le choix c'était entre perdre la vue ou perdre l'odorat, ou alors perdre l'ouïe ou perdre l'odorat, je pense que la quasi-totalité des personnes sacrifierait l'odorat et garderait la vue ou l'ouïe. Ouais. Sauf quelques spinozistes irréductibles. Alors, en fait, on voit par cet exemple que les sens ne sont pas égaux entre eux, qu'il y en a deux quand même qui prédominent, c'est la vue et l'ouïe, et les autres sont un peu délaissés et sont considérés comme faibles, voire peu intéressants. Et donc c'est le cas de l'odorat qui est le sujet de ce livre, donc « Philosophie de l'odorat » de Chantal Jacquet. Alors, avant d'entrer plus en détail dans le livre, je pense que c'est un livre d'idées comme un roman, en fait. La manière d'écrire est importante, donc je vais vous lire juste un petit passage, un court passage, pour que vous ayez une idée du style de Chantal Jacquet. C'est le début d'un paragraphe qui s'appelle « Parfum d'altérité ». Donc elle va parler en fait de l'odeur du corps de l'autre. Nous sommes des corps sentants et sentis, aussi bien au sens large mettant en jeu la sensibilité en général qu'au sens restreint à l'olfaction. Sentir l'autre ou être senti par lui, c'est toujours découvrir la part intime d'un être et pénétrer dans son intériorité. Cela tient au fait que l'odeur est l'émanation du corps, l'extériorisation de l'espace intérieur hors des frontières de la peau. L'odeur de l'autre, c'est sa chair exhalée et inhalée par moi, à la fois dehors, du dedans et dedans, du dehors. L'autre, étant son emprise sur le monde, prolonge son corps par ses odeurs. Donc c'est un livre très agréable à lire et facile d'accès, c'est-à-dire il n'y a pas besoin de savoir quoi que ce soit au préalable en philosophie pour le lire, ce qui n'est pas le cas de tous les livres de Chantal Jacquet. Alors Chantal Jacquet, justement, c'est une auteure qui a une soixantaine d'années, elle est d'une origine très modeste, d'un petit village de Savoie, et elle a passé d'abord le concours d'école normale d'institutrice, où elle a été reçue première de son département. Donc à l'époque, on passait ce concours assez tôt, et dans une scolarité. Ensuite, elle a continué jusqu'au bac, qu'elle a eu de manière très brillante, et elle a été admise à aller en classe prépa. Donc elle est en Cagne. Elle a intégré l'ENS de Fontenay. Ensuite, elle a été reçue à l'agrégation de philosophie et elle a passé un doctorat à la Sorbonne sur Spinoza. Alors, ces grands thèmes de travail, l'indique le sujet de son doctorat, c'est Spinoza. Et c'est une des auteurs ou un des auteurs actuels les plus intéressants et les plus reconnus sur Spinoza. Donc elle a une grosse production sur Spinoza. L'odorat est aussi un de ses thèmes de travail qui n'est pas négligeable parce qu'elle lui a consacré trois livres. Il y a celui-ci, il y en a un autre qui est la direction d'un ouvrage collectif. Et enfin, celui-ci date de 2010, il y en a un qui est paru en 2018 qui s'appelle « La philosophie du codo ». Le codo est une esthétique japonaise basée sur l'odorat, dont j'en dirai un peu plus dans l'exposé. Donc, si on veut en savoir plus ou l'écouter, il y a des conférences sur Internet. Elle a participé à des émissions sur France Culture, les chemins de la philosophie, particulièrement. Alors, ce livre, Philosophie de l'odorat, il me semble tout d'abord qu'il n'est pas inutile de préciser de quoi il s'agit, et elle le fait au début, c'est bien de l'odorat, donc de ce qui concerne l'olfaction, ce qu'on ressent par le nez. Donc, ce n'est pas du tout le goût. Sachant que dans le goût, en fait, il y a aussi, en partie, la mise en œuvre des récepteurs du nez qui servent pour l'olfaction. Donc là, c'est bien le nez. Hein. Philosophie de l'odorat, en fait, c'est la philosophie du nez. Et son objectif, c'est de réhabiliter l'odorat, de montrer sa richesse, à la fois sa richesse et ses possibilités, à la fois dans le monde artistique et dans le monde philosophique. Et tout particulièrement dans le monde artistique, elle se bat pour l'idée de l'odorat comme un véritable sens artistique. Alors il y a trois grandes parties dans le livre, donc il est bien structuré, mais en plus, je trouve qu'il y a des idées en fait qu'elle développe dans une partie, qu'on retrouve dans une autre. Donc ça s'infuse, ça se diffuse, et je trouve que les idées y circulent un peu comme des parfums, justement, dans ce livre-là. Ce qui en fait un de ces agréments supplémentaires. Bon. Donc elle parle de l'odorat, bien sûr, dans la philosophie et dans l'art, et elle commence par la littérature, donc à travers quelques écrivains emblématiques, Baudelaire, bien sûr, le sonnet correspondance, il est des parfums frais comme des chairs d'enfant. Ensuite, elle va développer deux œuvres romanesques, que sont le Lys dans la vallée, donc Balzac, et À la recherche du temps perdu, de Proust. Alors je vais parler un petit peu plus de Proust. Et c'est parmi, quand elle parle de Proust, c'est parmi les pages les plus intéressantes, les plus passionnantes du livre. Donc si vous êtes un fanatique de La recherche du temps perdu, lisez au moins ces passages sur Proust. C'est très intéressant. C'est comment Proust, en fait, utilise les odeurs et les parfums. Et curieusement, en fait, c'est une thématique qui n'a pas été beaucoup développée par la critique. On connaît bien sûr la Madeleine de Proust, mais elle est beaucoup plus associée au goût, même s'il y a quand même une partie d'odeur, de parfum là-dedans. Mais il y a bien d'autres passages où Proust parle des odeurs. En fait, dans l'œuvre de Proust, l'odorat, les odeurs, les parfums vont être comme un cheminement vers le temps retrouvé. Alors, quelques exemples. Hein, on pourrait passer toute la présentation uniquement à parler de Proust, mais il faut bien parler du reste aussi, qui est aussi très intéressant. Donc, il nous explique, en fait, Proust, il nous dit c'est quoi une heure, c'est-à-dire une heure 60 minutes. Et il nous dit que c'est, entre autres, un vase de parfums, d'odeurs. Et donc, dans notre existence, en fait, on va à la rencontre d'odeurs, de senteurs, et qui nous mettent, certaines de ces odeurs, nous mettent directement en relation avec le passé, avec ce qu'on a vécu dans le passé. Et ce lien est vraiment direct, immédiat et profond, beaucoup plus que par la vue, par exemple. Parce que la vue, en quelque sorte, elle est trop parfaite, elle est victime de sa précision, et ce qui fait que ce qu'on voit, en fait, on l'associe beaucoup plus à... On le localise beaucoup plus et on l'associe beaucoup plus à l'ici et au maintenant. Et donc tout le travail de Proust, vous connaissez la recherche, c'est de retrouver les sensations et de refaire vivre et partager les sensations du passé. Et en fait, il y a dans l'écriture de la recherche, il y a bien sûr un gros travail intellectuel, un gros travail de la raison pour écrire. Mais à la base, Chantal Jacquet nous montre en fait que beaucoup de choses viennent de sensations olfactives. Quoi. La sensation olfactive fait que se mêlent le passé et le présent dans une espèce d'indifférencié qui abolit le temps. Donc voilà pour la littérature. Alors, qu'en est-il des arts ? Alors elle parle un peu de la peinture et de la musique, ce qui semble pas évident, l'odorat dans la peinture et la musique. Elle parle de l'art contemporain, où là, effectivement, on rencontre de temps en temps en fait, des œuvres, des installations, dans lesquelles, typiquement, c'est ces œuvres en fait, où vous entrez quelque part dans un espace et vous immergez dans cet espace-là. Et dans cet espace, on peut vous faire découvrir, humer des parfums et des senteurs, quoi. Voilà. Alors, elle parle surtout, ce qui est important et ce qu'elle met en évidence, c'est dont j'ai déjà dit deux mots, c'est ce fameux kodo, art japonais. Alors, ça consiste en quoi ? Ben, c'est des gens qui se réunissent, en gros, pour humer des parfums. Donc, avec tout un rituel, un peu comme le rituel du thé. Il y a une personne qui prépare des mélanges, qui prépare les parfums, qui les amène et les gens en fait, font circuler ces parfums, les hument, les sentent, et essaient de retrouver les composants de ces parfums, éventuellement écrivent des choses, disent, racontent des choses. Et donc, pour elle, elle montre en fait cet art du kodo comme la matérialisation en fait de la réalisation de l'odorat comme véritablement un sens artistique capable de nous apporter une émotion esthétique. Et donc, elle a récemment, en 2018, consacré tout un livre à cet art du kodo. Alors, bien sûr, il y a l'odorat aussi dans la philosophie. Au départ, ça pourrait sembler un peu antinomique. Si on regarde un peu les expressions du langage ordinaire, quand on dit, par exemple, quand on fait quelque chose au pif, ça veut dire qu'on le fait sans vraiment raisonner, quoi. Donc on est loin en fait de la rationalité et c'est plutôt le hasard et ce que en relation avec Spinoza qu'on pourrait appeler une connaissance de premier niveau, c'est-à-dire la connaissance par ouï dire ou par expérience vague. Il y a le flair aussi, le flair. On parle du flair, mais c'est plus une intuition aussi. Quelqu'un qui a du flair, c'est quelqu'un qui a des intuitions. C'est pas forcément quelqu'un qui raisonne, qui développe, qui argumente, qui est logique. Ceci dit, le flair, c'est aussi la sagacité. Celui qui a du flair, c'est celui qui est capable de pénétrer les choses dans tous ses aspects. Et donc là, c'est vraiment la démarche philosophique de trouver en fait tous les aspects d'un sujet. Et elle fait aussi un rapprochement que je trouve très intéressant entre l'odeur et l'idée vraie. Donc l'idée vraie, c'est une thématique que Spinoza a beaucoup développée. Et elle dit en fait qu'une odeur, ça nous envahit, on ne peut pas lutter contre elle, et en fait elle s'impose à nous, de la même manière qu'une idée vraie, sa vérité en fait s'impose à nous de manière forte. Alors, elle parcourt l'histoire de la philosophie, des pré-socratiques jusqu'à Nietzsche, en gros. Avec des développements plus ou moins importants. Alors, on peut dire que historiquement, un des tout premiers philosophes qui intègre vraiment l'odorat dans la pensée, c'est Lucrèce. Donc, notamment, il s'en sert. Il y a d'autres exemples. Je vais en citer deux. Lucrèce, donc, c'est la tradition épicurienne, c'est le matérialisme, c'est l'atomisme, et on lui a fait l'objection que les atomes, en fait, c'est une élucubration de l'esprit parce que personne ne les a jamais vus. entre parenthèses, jusqu'au début du XXe siècle, on s'est posé la même question, quasiment sous la même forme. Et Lucrèce, lui, il dit, bah, prenez les odeurs. Les odeurs, tout le monde les sent, donc ça existe, mais personne ne les voit. Alors, il l'utilise aussi de manière plus profonde, vraiment comme, comme objet de connaissance, pour démontrer que les atomes prennent un nombre fini de formes, pas une infinité de formes, en disant que bah, si les atomes pouvaient prendre une infinité de formes, en fait, il y aurait une infinité de senteurs. Parce que pour lui, en tant que matérialiste, bien sûr, l'odorat, tout ça, c'est du matériel, c'est des atomes en fait qui viennent nous chatouiller. Suivant leur forme, en fait, on ressent telle ou telle chose. Et il dit, si à ce moment-là, il y aurait, les formes des atomes étaient infinies, il existerait une infinité d'odeurs et on pourrait toujours trouver un parfum plus agréable. Il n'y aurait plus que mépris pour l'odeur de la myrrhe et la saveur du miel au profit des sensations plus fortes et plus puissantes. Donc là, on voit qu'on peut en fait utiliser l'odorat vraiment comme source de connaissance. Alors, il y a un auteur que tu as cité, Christian, qu'elle cite aussi, c'est Condillac, avec sa statue. Donc, je ne vais pas en parler du tout, mais si vous voulez vraiment savoir ce qu'est la statue de Condillac, c'est développé vraiment en long, en large et en travers. Et pour expliquer, justement, Condillac explique qu'avec uniquement l'odorat, eh bien, en fait, l'être humain peut arriver à connaître et obtenir la raison, le sens du jugement, etc., etc., qui, pour lui, ne sont pas des choses innées. Ouais. Alors, elle essaie de définir les possibilités d'une philosophie olfactive, donc un petit récapitulatif. Quelles sont les conditions d'une philosophie du nez? Donc, voilà, c'est plutôt matérialiste qu'idéaliste. Hein. D'ailleurs, le rejet de l'odorat par la philosophie va souvent avec le rejet du corps. Et l'idée que l'âme est supérieure, donc il faut se débarrasser du corps, donc surtout des odeurs. La philosophie l'olfactif aussi, elle considère l'odorat comme apportant une connaissance. C'est pareil hein, par rapport à l'odorat, mais ça par rapport à tous les sens de manière générale, hein, il y a des philosophes de la connaissance qui se fondent uniquement sur la raison et pour qui les sens en fait sont des sources d'erreurs. Ne vous fiez pas à vos sens, c'est la raison qui va vous donner la vérité. Et par contre, il y a des philosophes de la connaissance pour qui, comme Condillac par exemple, pour qui en fait toute la connaissance se fonde sur les sens. Et à ce moment-là, l'olfaction peut être messagère du réel. Et en fait, la philosophie du nez, c'est une philosophie plus du multiple et du devenir que de l'un et de l'être, du fait même en fait de la nature de l'odeur en fait, qu'on peut pas discerner dans un être. Et qui se diffuse, qui est multiple, qui n'a pas un lieu en fait particulier et qui est dans le mouvant en fait. C'est une philosophie du mouvant. Alors en conclusion, je vais pas le lire, mais on va faire un petit retour à Spinoza dans Éthique 4 qui nous donne un petit bréviaire de philosophie classique pratique. Pardon, pour nous dire comment il faut bien vivre. Et ce qui est remarquable, c'est qu'il nous dit n'hésitez pas, hein, faut pas exagérer, mais les plaisirs sont bons, hein, c'est bien ceux du vin, de l'amour, de la joie, de l'art. Et il cite explicitement les plaisirs du nez, de l'odorat. Donc il nous invite aussi à... Et ce livre est une invitation, en fait, à développer son nez. Et je terminerai juste en vous faisant une petite proposition, une expérience existentielle, en fait, que j'ai faite moi-même. Et dans les jours qui viennent, chaque fois que vous sentirez une odeur, et vous allez trouver que c'est une odeur qui ne sent pas bon. Normalement, vous dites « ça ne sent pas bon ». Mais essayez juste de dire « ça sent » au lieu de dire « ça ne sent pas bon ». Et on voit qu'à ce moment-là, on voit qu'on peut avoir un tout autre regard et apport sur l'odorat. Voilà.
Merci.